Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre capital, de votre argent, de vos investissements. On va parler dans quelques minutes de crypto, on va parler de Tesla, mais on va aussi parler de votre portefeuille avec la perspective des élections américaines. A tout de suite.
BFM Business, l'info éco. Esther Habitbol.
Bonjour à tous. Pendant 4 jours, la secrétaire d'État au Trésor des États-Unis est en déplacement en Chine devant la communauté du commerce. Janet Yellen a réitéré sa crainte face aux excès de production.
Construire une relation économique saine demande des règles équitables pour tous les employés et les entreprises américaines. Nous devons ouvrir des canaux de communication dans les domaines où nous avons des désaccords. Cela concerne la subvention industrielle chinoise. Les États-Unis et d'autres pays sont inquiets des effets sur l'économie mondiale.
La production industrielle de la France rebondit de 0,2% sur un mois en février. Des résultats en hausse, mais en dessous des attentes. En Allemagne, les commandes ont également très légèrement augmenté. C'est une première victoire pour les agriculteurs. L'Assemblée adopte en première lecture une loi en faveur des prix planchers. Le texte de la députée écologiste Marie Pochon a été approuvé par 89 voix contre 66. Il vise à garantir un revenu digne aux agriculteurs, c'est-à-dire une rémunération à hauteur de 2 fois le SMIC. Le prix minimum pourra être revu tous les 4 mois. Épar, Vittel, Contrex, la qualité sanitaire des eaux de Nestlé est remise en question. Un document de l'ANSES estime que le niveau de confiance est insuffisant pour garantir leur qualité. Le rapport pointe la présence de contaminants chimiques, notamment des PFAS, mais aussi d'autres contaminations d'origine fécale. L'agence sanitaire recommande une surveillance renforcée des sites de captage d'eau. Au premier trimestre, Shell s'attend à une nette baisse des ventes de gaz. À l'inverse, celle des produits chimiques devrait être nettement plus élevée. Depuis le début de l'année, les cours de gaz européens ont chuté d'environ 17%. Samsung, lui, attend de bons résultats. L'entreprise sud-coréenne anticipe une hausse de quasiment 1000% de son bénéfice au premier trimestre, soit 4,5 milliards d'euros. Le coréen est porté par la reprise du marché mondial des puces. Nafnaf lance un appel d'offres pour trouver des investisseurs. Objectif, obtenir un soutien financier complémentaire. Depuis septembre, l'enseigne de prêt-à-porter est en redressement judiciaire. D'ici le 13 mai, Nafnaf pourrait donc être cédé à un repreneur. Et puis on termine avec une nouvelle annonce de X, l'ancien Twitter. Le réseau social fait machine arrière. Les utilisateurs ayant un grand nombre d'abonnés obtiendront à nouveau la célèbre coche bleue. Un abonnement gratuit à la plateforme leur sera également proposé.
Merci Esther.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. En direct, à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours de 10h à midi. Et vous le savez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, également en podcast. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. Le programme du jour, la vie et la mort peut-être de la voiture électrique en bourse. On va décrypter ce qu'a fait Tesla cette semaine avec François Monnier, le directeur du magazine Investir. À 10h30, votre dose d'économie quotidienne avec Stéphane Pedrazzi. Nous reviendrons sur la guerre commerciale. Est-ce qu'il faut vraiment taxer les panneaux photovoltaïques chinois? Côté bourse, c'est Antoine depuis Euronext qui sera beaucoup avec nous en première demi-heure, mais aussi nos 2 traders qui vont nous aider à décrypter la séance du jour, peut-être un petit peu compliquée aujourd'hui côté CAC 40, on vous coach. Est-ce qu'il faut préparer votre portefeuille en anticipation des élections américaines? Même si rien n'est encore fait, le match retour 2020 Trump-Biden semble assez inévitable. Alors on se parle. Quelles classes d'actifs et secteurs peuvent tirer leur épingle du jeu? On parle de ça dans une grosse demi-heure. Les experts de l'IMO, le vendredi, vous le savez, c'est 30 minutes pour aborder tous les sujets immobiliers et logements qui vous concernent. Aujourd'hui, on va parler des travaux. Est-ce que des travaux, qu'ils aient de vrais effets ou non, peuvent suffire? Sinon, comment échapper à re-questionner votre investissement? Est-ce qu'on peut acheter du neuf? Est-ce que ça vaut le coup de regarder le neuf plutôt que l'ancien? Et puis, on zoomera aussi sur les usages électriques de plus en plus nombreux dans nos maisons, qu'elles soient neuves ou anciennes. Olivier Marin, propriété Le Figaro avec nous, et Audrey Zermati, défi. Et puis, c'est vendredi, Amaury de Tonquédec nous fera son édito crypto pour faire le point sur la semaine Web3 et Bitcoin, entre autres. Au programme, il est à vous, chers auditeurs. Comme Alexandre qui me demande comment les ETF pourraient influencer le marché du Bitcoin. Plus il y a d'achats de Bitcoin, plus il perd de la valeur. C'est une question, nous lui répondrons tout à l'heure avec Amaury. Comme Alexandre, vous pouvez nous écrire, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou m'écrire sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Il est temps de rejoindre Antoine du côté d'Euronext.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, nette correction du côté des marchés européens dès l'ouverture. On sent les investisseurs désorientés.
Oui, c'est un bon gros coup de mou qu'on se prend sur les marchés et un changement assez net de sentiment. Alors, premièrement, il y avait énormément d'investisseurs qui attendaient le bon moment, une bonne fenêtre d'opportunité pour pouvoir prendre des bénéfices par rapport à leurs positions longues qui ont dû sacrément augmenter depuis la fin de l'année dernière. Mais il y a aussi deux choses qui pèsent. Premièrement, une désorientation concernant ce que va faire la Fed en matière de taux d'intérêt. Parce que hier, on a eu des voix dissonantes des gouverneurs de la Fed qui disaient non, il est sans doute beaucoup trop tôt pour commencer le processus de baisse de taux. Du coup, ça a fait s'affoler les taux d'intérêt sur le marché obligataire, qui sont restés quand même assez tendus. Ça a capé la progression d'énormément de compartiments de la cote. Et puis, il ne faut pas oublier, derrière, et on en parle depuis une grosse dizaine de jours, la prime de risque géopolitique qui est toujours présente sur les marchés, avec en particulier un baril de pétrole brut qui a largement dépassé les 90$ maintenant, l'once d'or fin qui continue de battre des records et qui en a battu toute la semaine, puis les indicateurs de volatilité qui sont beaucoup réveillé ces derniers temps. Donc ça, on y reviendra. Mais globalement, ça se traduit par une tendance très négative sur les marchés. Et on le voit, des choix extrêmement défensifs de la part des investisseurs. C'est Carrefour qui signe la seule hausse du CAC 40 en ce moment, plus 1,64%. En baisse, on retrouve Bouygues, moins 2,07, 36,89€. Saint-Gobain, moins 2%, 72,74€. Et Essilor-Lussotica, moins 2%, 201,40€. Donc des valeurs un petit peu plus cycliques, mais les valeurs de croissance sont toutes orientées à la baisse, et notamment le secteur du luxe. A noter aussi plusieurs baisses assez marquées. Solution 30 qui perd 6% à 1,88€. Elior moins 5,33 à 2,49€. La seule hausse notable vraiment sur le SBF 120, c'est Morel et Prom, une valeur pétrolière qui suit les cours du brut. Le titre gagne 2,16% à 5,92€, mais on le voit sur le CAC 40, ça ne suffit pas à pousser à la hausse pour autant total. Le CAC donc moins 1,2% à 8053 points. Marché un peu agité, un peu volatile en cette fin de semaine. L'euro 1,0840 de Lorraine.
Et oui, la Fed qui sème le trouble, on verra ça avec vous dans un gros quart d'heure. Vous serez avec notre équipe débat pour souligner les sujets d'actu qui nous concernent en tant qu'investisseurs. A tout de suite Antoine, nous allons maintenant rejoindre François Monnier.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et oui, vous le savez, le vendredi, nous piquons le directeur des rédactions du magazine Investir qui vient nous éclairer. Bonjour François.
Bonjour Lorraine.
Aujourd'hui, on s'arrête sur le sujet de la voiture électrique. Bon, ralentissement, pardon, de ce mauvais jeu de mots.
Oui, c'est un peu la revanche de l'ancien monde, puisqu'on a Tesla qui perd près de 30% depuis le début de l'année, alors que Renault, lui, gagne 30%, que Stellantis progresse de 20%. Donc, on a le sentiment que les fabricants de véhicules thermiques tiennent leur revanche par rapport à un pur player dans le domaine de l'électrique, qui est Tesla. Qu'est-ce qui se passe? On a vu le quatrième trimestre, Tesla a changé de stratégie, il a pour résister à la concurrence asiatique, notamment chinoise, il a baissé drastiquement ses prix. Ça a maintenu les volumes, près de 20%, mais il n'y avait plus de croissance au quatrième trimestre 2023. Au premier trimestre, là, il n'y a plus non plus de... C'est pas qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a plus non plus de volume, puisque les volumes ont baissé de plus de 8%. Donc on n'est plus du tout dans une société qui est capable d'afficher une forte croissance. On estime que au cours de l'exercice 2023, ils ont été capables d'améliorer de 19% leur chiffre d'affaires. Et là, ça va être réduit de moitié cette année, en 2024. On serait plutôt sur une hausse de 11%. Et encore, ce 11%, il va être challengé dans les mois à venir pour savoir comment va se passer, sachant que le début d'année commence de la plus mauvaise des façons. Et on a le sentiment quand même, c'est ce qu'on peut voir aussi en France, c'est que les ventes de voitures électriques, elles plafonnent. Dans un marché qui est quand même relativement peu dynamique sur l'ensemble des immatriculations de voitures neuves, eh bien, on voit que les voitures électriques, leur part de marché n'arrive pas à dépasser les 20%. Il se vend toujours beaucoup de voitures thermiques. Peut-être qu'il y a le prix, peut-être qu'il y a d'autres choses, ou peut-être qu'il y a un désamour du véhicule, de la voiture, notamment auprès des jeunes générations. En tout cas, le déploiement du véhicule électrique ne se fait pas aussi rapidement que prévu. Et ça jette un petit peu le trouble. Et ce trouble, se matérialise, bien sûr, par une forte baisse des cours de bourse, qui est tout à fait justifiée. Il faut voir qu'aujourd'hui, Tesla se paye en bourse 60 fois ses bénéfices attendus 2024, 60 fois, alors que Renault et Stellantis se payent 4 fois les bénéfices. Donc c'est le grand écart en termes de valorisation, et on ne peut pas maintenir une valorisation avec des multiples de PER, ratio cours sur bénéfice, de 60 fois quand la croissance décélère fortement. Et donc les perspectives sur Tesla semblent compliquées à court terme, sauf s'ils arrivent à sortir un modèle qui suscite beaucoup d'engouement. Mais on voit que la concurrence, en tout cas, elle s'annonce féroce dans le domaine de l'électrique, et que les grands acteurs du thermique se mettent aussi à sortir des voitures électriques. Donc la compétition va être rude dans un marché qui semble n'afficher vraiment une croissance qui est quand même plutôt faible, en tout cas beaucoup plus faible que prévu. Et donc, gros doute et grand arbitrage. Et donc, c'est aussi un peu la revanche de l'ancien monde.
Voilà, Apple qui licencie en parallèle de cela 600 personnes après avoir terminé son projet de voiture électrique. Ça fait autant de talents. Peut-être ingénieurs à aller capter pour trouver un nouveau modèle.
Et là, on voit aussi qu'Apple est en panne de croissance. Là aussi, désamour des investisseurs. On a Apple qui est en baisse depuis le début de l'année alors que le Nasdaq est en hausse. Apple est en retard dans l'IA. Il a fait une tentative dans les véhicules électriques, il n'y est pas arrivé. Donc, est-ce que c'est le nouveau casque virtuel qui va relancer un petit peu l'activité du groupe? Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses.
Ouais. Un dernier mot, automobile et électrique et US. Ford repousse la production de ses modèles électriques au profit de l'hybride. Ça aussi, ça vient illustrer ce que vous nous expliquiez, cher François. Un autre sujet, une autre question pour vous. Pourquoi la Fed va-t-elle continuer à hésiter à baisser ses taux directeurs, cher François?
Là, on a quand même eu un nouveau message envoyé par Jérôme Powell cette semaine, qui est en train de préparer les investisseurs au scénario qu'il est possible que finalement il n'y ait pas de baisse de taux en juin. Il faut savoir que les investisseurs ont été extraordinairement patient parce qu'on estimait qu'il y aurait une baisse des taux en mars. Après, c'était décalé et qu'on avait un consensus qui, pour l'instant, reste encore majoritaire, mais qui s'effrite de jour en jour, qui est de dire lors de sa réunion du 11 et 12 juin, il y aurait une baisse des taux, la première baisse des taux de la Fed. Et là, Jérôme Powell nous explique deux choses. La première chose, il nous dit qu'il a du temps. Alors, on va voir pour l'instant si le marché accepte ce scénario en disant est-ce que la Fed a vraiment du temps. Il nous vend le fait que la croissance reste solide aux États-Unis, ce qui est vrai. Elle a dépassé toutes les attentes l'année dernière. Là, on est encore sur une croissance de 2%, le double de ce qui est attendu en France. Donc, c'est vrai que la croissance, elle est résistante. Le marché de l'emploi, il est toujours solide. Et l'inflation, elle reflue. Mais, il met un petit mais, il estime que cette inflation évolue sur un chemin chaotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment sur un scénario où on n'est pas à l'abri de résurgence inflationniste du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose qui perturbe les membres de la Fed. Et aujourd'hui, ils n'ont pas confiance sur le fait que cette inflation, elle est durablement en train de refluer. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un débat au sein du Conseil de la Fed et que peut-être qu'il n'y aura pas de baisse de taux en juin. Et s'il n'y a pas de baisse de taux en juin, ça va être très difficile de mettre une baisse de taux avant les quelques jours avant les élections présidentielles, parce que ça voudrait dire que la Fed intervient dans l'élection présidentielle et elle n'est jamais intervenue dans l'élection présidentielle. Et donc, deuxième petite phrase intéressante, c'est qu'il dit que la plus forte chance, c'est qu'il y ait quand même une baisse de taux au cours de l'année. Mais ça peut être décembre. Ça veut dire après les élections présidentielles. Et là, ça change quand même la donne. Si c'est décembre et pas juin, on perd quasiment un semestre. Et donc, ça veut dire que le marché va réagir. En tout cas, il risque d'avoir un peu de volatilité, voire beaucoup de volatilité au cours de ce fameux mois de juin.
Voilà, rendez-vous à 14h30 pour y voir un peu plus clair aujourd'hui, puisque c'est le vendredi de l'emploi aussi. Ça aussi, ça devrait aussi aider la Fed peut-être à prendre une décision. François, vous restez avec nous. On se retrouve avec Antoine Larigauderie et Olivier Lévy dans quelques minutes. On va notamment parler du potentiel réveil des small et mid-cap en bourse. Pour l'heure, nous partons rejoindre nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Et nous avons ce matin Alexandre Baradez de chez IG et Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, on va commencer par vous. Est-ce que la semaine ne va pas se terminer Bonjour. En queue de poisson, pour pas dire en eau de boudin sur notre CAC 40?
Elle va se terminer nerveusement, ça, avec les statistiques de l'emploi tout à l'heure, mais François a parfaitement résumé la situation. Y a des doutes sur le calendrier de baisse des taux, mais je voudrais rajouter qu'à un moment donné, certains ont même évoqué une hausse des taux en 2024. Évidemment, c'était pas l'idée majoritaire, mais c'était quand même dans le pipeline. Donc, tout est possible. Vous savez, on a tellement raconté de choses. En effet, au début, c'était mars, après juin, après, c'était pas du tout. Après, c'est bon, on a tout eu. Hein. Donc, c'est vrai que les stats à 14h30 sont très, très, très attendues et les marchés devraient bouger. Donc là, il se passe rien. Ce matin, qu'est-ce qui se passe ? On a ouvert avec un gap à la baisse, c'est-à-dire en dessous du plus bas de la veille, alors qu'on avait terminé normalement, roue libre, tranquillement. Et il n'y a pas de relais. On est stable depuis l'ouverture à 9h. Les volumes sont comme d'habitude, autour de 400 millions. Simplement, la volatilité implicite qui monte d'un cran, c'est-à-dire la méfiance qui monte d'un cran. On est plutôt vers 13 de volatilité implicite. On était plutôt vers 11, même à un moment donné 10,5. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'être prudent. Moi, j'avais signalé, alors c'était sur votre antenne le 26 mars dernier, que on avait une accumulation de warning, qu'il fallait acheter des puts, qu'il fallait se préparer, se protéger sur des achats sur repli, etc. L'effet moutonnier était assez, pour moi, caractéristique d'un manque d'idées. Et puis, voilà, c'était Ruby, par exemple, où tout le monde en achetait parce que Bolloré en avait acheté. Et depuis, en fait, on apprend qu'il y a plusieurs franchissements de seuil des 5%. Mmh. Après, là, ce matin, moi, je m'étais placé vers 8025 tranquillement, j'attendais. Mais en effet, il n'y a pas eu de relais à la baisse, on ne l'a même pas baissé. Donc j'essaye toujours d'acheter un petit peu protégé par des options. Et j'avais notamment acheté le put 8000 et j'en ai vendu une partie là, ce qui fait que ça paye la position globale. Mmh. Voilà, on est dans l'attente. On remet pas en cause l'idée d'acheter. Et le vrai warning, quelque part, du CAC, ça serait la rupture, par exemple, des 7980. À partir de là, on serait beaucoup plus méfiant dans les achats. Mais si vous voulez, on arriverait dans une zone de retracement normale que l'on attend habituellement pour acheter des valeurs, les belles valeurs du CAC. Voilà, mais on verra. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le risque sur les taux, vous avez le risque géopolitique. Voilà, et vous avez donc une méfiance généralisée sur les marchés. On ne peut pas dire qu'il y ait, évidemment, qu'il y ait de la complaisance. Il n'y en a pas, il n'y en a pas de complaisance. Et c'est pour ça que ces marchés résistent admirablement bien. Donc, il n'y a pas de changement majeur. On peut conserver l'idée d'acheter. On est dans une phase de prudence dans l'attente de ces stats qui vont provoquer certainement une fin de semaine agitée sur les marchés.
Pas de complaisance, Alexandre Baradez de chez IG. Vous êtes d'accord ?
Oui, ben nous, on est pas trop mal dans le scénario là. Quand on se parlait il y a quelques jours, on évoquait la possibilité d'une correction de 3 à 5% sur le CAC 40. On est à moins 2,5 par rapport au point haut touché. Moi, je pense que le risque, on peut encore l'avoir si le marché voulait, notamment après le rapport sur l'emploi, on va voir un petit peu les données du rapport, mais du rapport américain, donc sur l'emploi cet après-midi. Les zones un peu à risque, c'est qu'on aille chasser un petit peu à un moment donné sous les 8000. Il y a une vraie zone technique à 7900 points. C'est une zone que là, je pense que techniquement, on pourrait aller chercher. Et si vraiment le marché est un poil plus nerveux, on peut même aller sur du 7750. Après, je pense que dans cette zone 7750 ou 7900, si on venait à la retaper, je pense que là, c'est des zones où effectivement, c'est un peu la stratégie de buy the dip. Hein. On a un creux, on tape des niveaux techniques et après, on pourrait essayer de repartir. Mais pour l'instant, et c'est un peu ce que l'on souhaitait voir, c'est-à-dire des marchés américains qui étaient, moi, je considère un peu trop complaisants par rapport à pas mal d'éléments. Et hier, qu'est-ce qu'on a eu ? C'est exactement effectivement ce qu'on écrivait avec vous ces dernières semaines, c'est que enfin des membres de la Fed commencent à ajuster leur communication par rapport aux chiffres réels d'inflation qu'ils sont en train de voir. Mmh. Et hier, ce qui a vraiment déclenché le mouvement d'aversion au risque sur les marchés américains, et c'est pour ça que l'Europe baisse ce matin, c'est exclusivement lié à ça. C'est un membre de la Fed qui habituellement est très très colombe, hein, qui est dans le top 3 des membres les plus accommodants de la réserve fédérale, et bien qui explique qu'il avait encore il y a quelques jours des prévisions de baisse de taux, c'est logique, c'est une colombe, mais il dit si l'inflation stagne en gros comme elle fait là depuis quelques mois, et bien l'hypothèse d'une absence de baisse de taux cette année ne sera pas nulle. Et juste au même moment, quelques minutes après, vous avez un faucon de la Fed, donc lui habitué à parler un peu plus durement, mais qui tient exactement les mêmes propos. Il dit si l'inflation stagne de cette manière là il est possible qu'il n'y ait pas de baisse de taux cette année. Mmh. Et puis au même moment, si vous voulez, il y a vraiment une conjonction d'éléments assez incroyable. Au même moment, vous avez un communiqué de la Maison Blanche qui tombe. Au même moment, à quelques minutes d'intervalle, ce fameux communiqué qui met en garde Israël par rapport à sa politique militaire dans la bande de Gaza. Et là, vous avez tous les éléments, le pétrole qui flambe et puis donc les marchés qui s'affaissent d'un coup. Donc je pense que ce contexte-là peut encore un petit peu perdurer. Et je trouve que c'est pas mauvais en fait. Hein. Mmh. Si les marchés américains veulent corriger encore de quelques pourcents, c'est ça qui pourrait amener le CAC un peu sous les 8000 points, mais je pense par contre que si on commence à aller sous les 8000 pour le CAC, dans cette fameuse zone, hein, 7007, 7009, si on venait à taper ces zones-là, je pense qu'il y aurait après beaucoup moins de potentiel pour aller plus bas et ça pourrait commencer à devenir des zones d'achat intéressantes. Mais pas encore pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt, me semble-t-il.
Voilà, Neil Kashkari, le plus faucon du FOMC, qui est synchronisé avec les communications de la Maison Blanche et qui apporte beaucoup de troubles sur nos marchés. Merci beaucoup Alexandre Baradez de chez IG et Jean-Louis Cuissac. On vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à décrypter, à déchiffrer ce qui se passe tant du côté des États-Unis que de chez nous en Europe. C'est l'heure de continuer à parler des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier.
Pour investir sur BFM Business.
C'est vendredi, François Monnier des rédactions d'Investir est parmi nous. Rebonjour cher François.
Rebonjour Lorraine.
Antoine Larigauderi depuis Euronext est resté branché car nous avons de l'actu bourse. Évidemment, on va parler de tous les indices de la peur qu'il faut surveiller de près. Et puis Olivier Lévy est rentré dans le club, président de Lévy Capital Partners, avec nous ce matin. Bonjour Olivier.
Bonjour Lorraine.
On va démarrer avec vous Antoine, si vous le voulez bien, malgré les quelques secondes de latence, parce qu'il y a des signaux de volatilité sur les marchés. On regarde de près le VIX, évidemment, qui est autour de 16,48 à l'heure où on se parle, mais aussi on va parler du pétrole et de l'or quand même. Antoine, je ne vous entends pas bien encore.
Qu'Alexandre Baradez ne soit pas resté. Allô, vous m'entendez ? Tout va bien ?
Allez-y.
Ah ok, alors oui, c'est vrai que c'est dommage qu'Alexandre Baradez soit pas resté un petit peu plus longtemps, parce que c'est vrai que oui, Neil Kashkari, alors il en parle comme d'une colombe, c'est pas exactement ça, enfin pas à mon sens. Neil Kashkari, c'est
non,
le patron de la Fed de
Minneapolis, comme une colombe, hein,
très médiatique
pas, hein. Plutôt comme un gros faucon.
Écoutez, moi j'ai plutôt entendu ça. Le truc avec Neil Kashkari, c'est qu'il a pas de position prédéterminée, c'est que il est plutôt contrariant et il vient toujours être le poil à gratter de la politique majoritaire à la Fed. Et là, c'est pas vraiment étonnant de le voir prendre un discours strictement inverse là, en disant tiens, mais pourquoi il y aurait pas de baisse de taux cette année, pourquoi on remettrait pas ça à l'année prochaine. Donc ce n'est que l'expression du fait qu'il y a une vraie division hein, maintenant, un canal majoritaire qui veut que les taux baissent malgré des indications d'économie qui restent quand même extrêmement dynamiques du côté des États-Unis, et c'est un risque à prendre. Et le fait que la BCE se soit dit nous on est prêt à amorcer le mouvement mais on va regarder quand même de près ce que fait la Fed, ça fait que tout le monde est perdu là en ce moment, contrairement aux marchés qui, eux, ont une position un petit peu pragmatique. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a énormément d'investisseurs qui attendaient une fenêtre de tir et justement une petite phase de confusion et de volatilité pour exercer leur position et qu'elle soit bien fructueuse. C'est sans doute ça qui est en train d'être fait. C'est pour ça qu'on n'assiste pas à une panique totale. On a un CAC 40 qui recule mais qui reste quand même au-delà des 8000 points. Mais effectivement, des indicateurs de volatilité, il y en a partout. Le VIX, l'indice de la volatilité aux États-Unis, a beaucoup grimpé. Alors, ces deux derniers jours, ça reste l'indicateur maître, mais il n'atteint pas des des niveaux absolument formidables. Hein. On est au plus haut depuis novembre dernier. On renoue avec les 16 points. On n'est pas avec des marchés qui semblent être en perdition totale. Parallèlement, on a des cours de l'or qui restent extrêmement fermes. On a signé de nombreux records au cours de la semaine. Et puis, on a aussi le pétrole, ça qui reste une hypothèque de poids. On était au-delà des 91 dollars pour le Brent de mer du Nord ce matin. On est redescendu un petit peu au-dessus. Donc voilà, incertitude monétaire et aussi la prime de risque géopolitique qui reste entière. Et si on regarde le bilan hebdomadaire, encore une fois, les secteurs de l'aéronautique et de la défense sont quand même très bien placés parmi les hausses, parmi les meilleures performances. Donc voilà, ça reste un marché à la fois pas tranquille du point de vue du cadre monétaire et puis aussi soumis aux pressions géopolitiques.
Et oui, le Brent hein, de mer du Nord qui est en hausse continue depuis le 13 décembre 2023. François ?
Bah oui, on voit que le pétrole est bien orienté. Ça, bien sûr, ça génère de l'inflation et ça provoque des rotations thématiques et sectorielles. Aujourd'hui, on a un Total Energy qui est à son plus haut historique. On a toutes les compagnies pétrolières qui sont fortement à la hausse depuis le début de l'année. ExxonMobil gagne près de 20%. BP et Shell sont en forte hausse. Et à contrario, et là aussi, c'est un peu la revanche de l'ancien monde, un peu comme de ce qu'on échangeait tout à l'heure entre l'électrique et le thermique. Là, on a les compagnies pétrolières qui caracolent en tête des hausses, alors que les producteurs d'énergie renouvelable, les valeurs vertes, elles sont toutes dans le rouge depuis le début de l'année. On a vendu d'Iberdrola, du Neoen, du Voltalia pour aller sur des compagnies pétrolières, parce que les compagnies pétrolières, elles ont beaucoup de cash, elles investissent, ils font des rachats d'actions massifs, et puis bien sûr, ils distribuent des gros dividendes, alors que les producteurs d'énergie renouvelable, eux, ils ont, pour construire un fameux parc d'éolien, de solaire et d'hydraulique, eh bien, il faut investir et ils ont beaucoup de dettes à leur bilan. Et les taux d'intérêt restent élevés du fait d'un contexte qui reste inflationniste. Donc ces impacts, ces décisions, ces hésitations au niveau de la Fed, ces évolutions du cours du pétrole, ça a des impacts bien sûr très clairs sur les secteurs, les thématiques, et ça provoque de violentes rotations sectorielles. Et là aujourd'hui, si vous êtes un investisseur ESG, vous faites une très mauvaise année, Lorraine, puisque au premier trimestre, il fallait pas avoir de voiture électrique et il fallait pas avoir de producteurs d'énergie renouvelable, il fallait avoir du thermique et du pétrole, comme quoi chaque secteur peut avoir son jour de gloire.
Est-ce qu'il faut aussi avoir des petites et moyennes valeurs, Olivier Lévy, dans son portefeuille pour surfer ces temps complexes en bourse ?
Absolument, Lorraine, on en a déjà parlé la semaine dernière, il fallait traiter les big capitalisations et peut-être réinvestir ce gisement formidable qui est celui des small et mid capitalisations. Donc c'est celui qui est entre 150 millions de capitalisation boursière jusqu'à 10 milliards. Donc les small caps 150 à 2 milliards et de 2 milliards à 10 milliards pour les mid caps. Donc vous retrouvez à l'intérieur de ce gisement des Trigano, des Rexel, des Veralia et pas de micro caps comme Piscine des Joyaux, etc. Souvent, vous avez effectivement maintenant des valorisations qui sont historiquement décotées par rapport aux big capitalisation, de l'ordre de 30%, décotées par rapport aux private equity, de l'ordre de 40%, et on investit, je dirais, sur le long terme, on aligne nos intérêts avec les dirigeants de ces sociétés, qui sont souvent des sociétés familiales, qui privilégient pas les salaires, les dividendes, le rachat d'actions, mais plutôt une structure bilancielle saine, la transmission, la création de valeur sur le long terme. Et donc, on a une décote historique, on a un momentum pas inintéressant parce qu'on a beaucoup décollecté sur les fonds small et mid cap depuis 5 ans. Là aussi, l'univers est en possible rattrapage grâce à des OPA qui reviennent, grâce à des situations spéciales, grâce à des retraits de cotes. Les fonds private equity ont les poches totalement pleines. Et je dirais qu'on devrait plutôt mettre une prime sur ce gisement-là versus le private equity qui, lui, n'est pas liquide, en aucun cas.
François, quand on est investisseur particulier, qu'on n'est pas investisseur pro, qu'on n'est pas boursicoteur branché toute la journée, en fait, finalement, on quitte la grosse cote, on s'intéresse qu'aux petites et moyennes valeurs, comme ça, on est tranquille. Tout ce qui est l'actualité des marchés nous concerne un petit peu moins.
Oui, enfin, il y a un impact. Hein. Le marché et le contexte géopolitique a un impact beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer sur les valeurs moyennes. Parce que si jamais le contexte géopolitique se dégradait, on met une prime de risque sur les valeurs moyennes parce qu'il y a moins de liquidité que sur une grande. Donc les investisseurs veulent pouvoir sortir très rapidement si jamais il y avait un imprévu, si jamais il y avait un risque politique, si jamais ça dégénérait en Ukraine ou à Taïwan. Donc c'est pour ça que le risque politique, on le mesure pas sur le CAC 40, mais on le mesure sur les valeurs moyennes. Ça, c'est le premier point. Et depuis 2 ou 3 ans, les valeurs moyennes ont été pas capables d'améliorer leurs profits aussi rapidement que les grandes. Donc, j'avais dire, l'ajustement, il est logique. Sauf que, comme à chaque fois en bourse, on va vers un excès. Et l'excès, il se mesure quand on compare la valorisation des entreprises du private equity avec les entreprises qui sont cotées. Historiquement, une entreprise cotée mérite une prime par rapport à une entreprise non cotée parce qu'il y a une meilleure transparence, il y a une meilleure liquidité pour rentrer et sortir qu'une entreprise sur le private equity où vous demandez à des investisseurs de rentrer dans le private equity pour un horizon de 8 ans et 10 ans à 12 ans plus tard, vous êtes toujours bloqué, vous ne pouvez pas sortir. Donc cette prime de liquidité mérite d'être regardée au regard du private equity. Donc on est allé dans un excès. La question maintenant, c'est quand? Quand est-ce qu'on aura un réveil des valeurs moyennes? On l'espère cette année. Il y a un consensus pour dire qu'il y aura un réveil cette année et je pense que le réveil aura lieu lorsque la récession en Allemagne sera terminée. Généralement, les valeurs moyennes se mettent à redécoller lorsqu'on repart sur un cycle de croissance économique. Donc là, ce que tout le monde regarde, c'est quel est le niveau de l'économie en Allemagne. Est-ce qu'en Allemagne va toucher son point bas à quel moment au cours de l'année? Et généralement, c'est à ce moment-là qu'il y a un réveil des valeurs moyennes et qu'on recommence un cycle. Les valeurs moyennes sont beaucoup plus réactives boursièrement, d'autant que là, on a des très belles décotes.
Olivier, et on donnera le mot de la fin à Antoine.
Oui, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites, évidemment. Je compléterai par le fait que c'est un investissement de long terme et que vous avez aussi un marché qui est totalement polarisé entre les 7 magnifiques, là où vous avez un risque, ou là aussi que la liquidité sorte de cet argent qui est totalement empaqueté, concentré sur quelques valeurs où, je vous le rappelle, les ETF ont totalement délaissé les small et mid cap pour se ranger effectivement sur ces grandes valeurs. Donc, d'après moi, vous avez raison, en partie, d'un côté, et de l'autre, évidemment, il va y avoir sur les GAFA, sur les 7 magnifiques, possiblement, des sorties massives qui se dérouleront rapidement. Donc, à l'investisseur d'être tactique, d'être proactif et d'être là toujours aussi audacieux en encadrant les risques.
Oui. Antoine, peut-être le mot de la fin avec Nvidia qui est en baisse de presque 11% là en 2 semaines.
Oui, on commence à voir des dossiers qui deviennent décotés du côté des 7 magnifiques. Ça, bon, on a beaucoup parlé de Tesla, mais Nvidia peut-être à regarder. Et puis alors, en sous-marin du côté de la Bourse de Paris, si vous regardez les meilleures performances sur les 5 derniers jours, Clariane, plus 22%. Vusion Group, l'SES Imagotag, plus 15,3%. Atos, plus 13,5%. On a des investisseurs qui commencent à revenir sur les dossiers qui ont été massacrés ces dernières semaines. Comme quoi, sur certains secteurs bien pointus, il peut y avoir un petit retour de l'appétit pour le risque et tenter des jolis coups.
Voilà. Étonnamment, ces dossiers difficiles qui surperforment d'une semaine à l'autre, on change complètement de tendance. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Antoine qu'on trouve dans une heure. On parlera Bitcoin et crypto avec vous. Merci François Monnier. Qu'est-ce qu'on lit à la Une d'Investir demain?
On fait le point sur 50 ans de bourse et on regarde les 13 chocs financiers qui ont chahuté la bourse et on voit que finalement à chaque fois la bourse est capable de rebondir, que les entreprises sortent plus fortes à chaque fois des crises et qu'en aucun cas il faut paniquer. Si vous tenez vos positions, eh bien vous sortez à chaque fois gagnant.
Voilà, un petit peu d'histoire pour relativiser ce qui se passe à court terme sur les marchés. Olivier, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On passera peut-être un petit peu de temps à parler de la liquidité ou pas du patrimoine des Français. Hein ?
Avec plaisir.
À la semaine prochaine. Vous restez avec nous, on va continuer à s'occuper de vos finances perso. Juste après la pub, on vous coach comment préparer votre portefeuille aux élections américaines, même si rien n'est encore scellé. Il y a peut-être des classes d'actifs ou des secteurs à regarder de près dès maintenant. C'est la pub et après, Stéphane Pedrazzi pour votre dose de dose. Votre dose d'économie plutôt.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Bonjour Stéphane Pedrazzi.
Bonjour Lorraine.
Nous allons parler panneaux solaires. La France veut relancer sa filière photovoltaïque. Bruno Le Maire part en vadrouille. Il va se rendre aujourd'hui à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, sur le parc photovoltaïque d'EDF. Racontez-nous.
Oui, tous les regards vont être tournés vers la Chine, avec ces panneaux qui sont 4 fois moins chers que ceux produits en Europe. Concurrence déloyale, explique certains fabricants, en raison des subventions versées par la Chine à ses propres fabricants, ce qui a conduit l'Union européenne à ouvrir une enquête il y a quelques semaines. Du coup, la question se pose, est-ce qu'il faut limiter, est-ce qu'il faut interdire les panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine? Est-ce qu'il faut leur imposer une sorte de taxe carbone? Est-ce qu'il faut les exclure des mécanismes d'aide à l'installation? Un petit peu comme ce qu'on a fait pour les voitures électriques fabriquées en Chine. Mais il y a un risque, c'est celui d'augmenter les tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine. Et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, celle des éventuelles représailles.
Bon, en tout cas, il y a des arguments sur le plan environnemental, Stéphane.
Alors ça, oui, très clairement, si on est convaincu par l'urgence climatique, on refuse d'importer des panneaux solaires qui ont été produits à partir d'électricité carbonée, parfois même très carbonée lorsqu'elle provient de centrales à charbon, et surtout qui ont traversé une bonne partie de la planète pour atterrir en France. Au final, ces panneaux chinois, ils arrivent quand même avec un gros sac à dos carbone, et sans être un ayatollah de l'écologie, il faut reconnaître que c'est un petit peu hypocrite de vendre des panneaux solaires pour décarboner notre énergie s'ils arrivent déjà avec une dette carbone assez conséquente. Et puis, il y a une question sur le plan social, le plan sociétal, même discours. Je pense qu'il faut s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces panneaux ont été fabriqués. On peut faire la comparaison avec le textile. Pendant des années et des années, on a détourné le regard et on a vu les conséquences sociales et environnementales de l'industrie textile un peu tard. Donc, ne faisons pas la même chose avec le photovoltaïque. Je le disais ce matin avec Jean-Marc Daniel, qui n'était pas d'accord, mais il faut avoir le courage de nos convictions. Et puis, après, sur le volet économique, est-ce qu'on peut lutter à armes égales avec les panneaux solaires chinois? Absolument pas. Ils sont 4 fois moins chers. Je connais personne qui va juste pour, par conviction écolo, payer 4 fois plus cher. Est-ce qu'il y aura une taxe à l'importation? Alors, c'est sur la table, on le sait. C'est pas l'idéal, mais ça serait peut-être la moins pire des solutions. Et puis, est-ce que c'est hypocrite de justifier des mesures protectionnistes derrière un écran de fumée environnementale? Peut-être, mais enfin, je vous signale quand même que les Américains n'ont pas eu cet état d'âme avec l'IRA.
Oui, moins d'état d'âme de leur côté, parce que la menace, en face, si je peux dire, c'est de subir des représailles.
Oui, représailles, puis alors on sait à peu près où ça va se diriger. La Chine a ouvert une enquête sur les spiritueux et le cognac en particulier. Sachant que le cognac français, 70% de ce qu'on produit est vendu à l'exportation et qu'une grosse partie de ces exportations est vendue en Chine, on sait qu'ils risquent d'être les victimes de la bataille. Pour autant, c'est ce que je disais, quand on a des convictions, il faut les défendre et on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi selon le principe du commerce et de la liberté de commerce. La Chine est dans l'OMC. Les règles de l'OMC, il faut les respecter. Et si effectivement il y a eu des subventions versées aux fabricants chinois qui faussent la concurrence, ben, ça va à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
Voilà, guerre commerciale. Faut-il taxer ou non les panneaux photovoltaïques chinois? Merci Stéphane Pedrazzi pour votre regard sur ce sujet. On le comprend, complexe. Cette chronique est à retrouver comme l'ensemble de vos chroniques et analyses cette semaine sur notre site et notre application BFM Business, mais aussi sur YouTube. Si vous voulez participer à la discussion, à la réflexion ou au débat, eh bien, retrouvez Stéphane et cette chronique sur YouTube. À suivre, on s'occupe de votre portefeuille avec une idée de valeur ou en tout cas un cas d'investissement.
Tout pour investir en portefeuille.
En portefeuille avec Pierre Chang. Bonjour Pierre.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes gérant OPCVM à la financière de l'Échiquier. Avec vous aujourd'hui, on s'arrête sur la société Score.
Tout à fait.
Pourquoi ce choix de vendredi matin?
Alors Score, c'est une société française qui fait de la réassurance. Et c'est vrai que dans la réassurance, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui sont cotés. Et Score fait partie de celles qui se payent le moins cher. Alors, il y a un historique assez chargé quand même, c'est Score, avec vraiment des difficultés financières au milieu des années 2000. Et ensuite, un management qui n'a pas fait l'unanimité sous Denis Kessler, que tout le monde connaît, qui avait vraiment une présence médiatique importante,
qui avait également
une certaine aura en interne et qui parfois pouvait pénaliser favorisé la valorisation du groupe dans le cadre de certaines prises de position. Et on se rappelle aussi peut-être de la rivalité avec Covéa, hein, parce que pendant plusieurs années, les deux managements de Skor et Covéa se sont livrés une bataille médiatique, financière. Et donc ça a beaucoup pénalisé quand même le groupe et sa valorisation en bourse, quoi. Donc il y a maintenant un an, on a un nouveau CEO qui est arrivé chez Skor, qui s'appelle Thierry Léger, qui vient de Swiss Re, qui a un beau CV et qui depuis un an fait quand même un travail assez discipliné, qui est reconnu, qui commence à être reconnu par les investisseurs. Et donc il a fait plusieurs chantiers, il a notamment annoncé un plan à horizon 2026, hein, donc ça c'était en septembre dernier. Il a également simplifié la structure hiérarchique, les échelons de hiérarchie dans l'entreprise. Et puis aussi on a eu des bonnes publications de résultats, notamment les résultats 2023 qui étaient supérieurs aux attentes. Et c'est vrai que l'un des focus des investisseurs, c'est la solvabilité, donc le ratio de solvabilité. Et sur cet élément, il a été vraiment très rassurant à l'occasion de ces résultats annuels. Et donc du coup, on se retrouve avec un groupe qui est en train d'amorcer son re-rating, on dit, hein, donc ça c'est en anglicisme, mais ça veut dire vraiment, voilà, le titre commence à se revaloriser par rapport à ses comparables boursiers, et sachant que ça se paye aujourd'hui environ 6 fois le price-earning ratio, hein, donc la capitalisation divisée par le résultat net, alors que les concurrents...
Oui, j'allais le dire par rapport à la concurrence.
Voilà, donc la plus belle valeur, celle qui est la mieux perçue dans le marché aujourd'hui, c'est Munich Re, elle se paye 10,5 fois, contre 6 fois pour Skor. Donc là, on voit vraiment le gap. Alors, Skor, c'est la plus petite, donc il y a peut-être une déco de taille, mais qui là est vraiment trop importante. Sinon, il y a aussi Hannover Re qui est coté aussi en bourse. Donc, c'est pas tout à fait le même animal, mais en tout cas, on est dans le même secteur, c'est similaire. Et là, on est plutôt vers 12 fois le price earning ratio. Donc, on voit des gaps importants. Alors maintenant, si on se projette un peu dans l'avenir, comment ça va se passer? En fait, Skor marche sur deux jambes. Une jambe qui est dans ce qu'on appelle le non-vie, donc la réassurance dommage. Et là, c'est une division qui fonctionne très bien. Et surtout, ce qui se passe, c'est que dans ce métier-là, donc vous avez les catastrophes naturelles, par exemple, les cyberattaques, il y a plein de choses là-dedans. Mais dans cette division-là, en fait, on se rend compte que les assureurs sont plutôt prudents parce que les risques augmentent de manière notable, notamment dans le climat, les risques liés au climat. Et donc, les assureurs sont assez prudents. Donc, du coup, vous avez une offre d'assurance qui est stagnante, alors que la demande, elle, est très forte. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les prix dans le dommage, dans la réassurance dommage, sont plutôt en hausse d'environ 5% par an. Donc, ça, c'est très bon pour la rentabilité. Mmh. Et là, Skor va vraiment profiter de ça pleinement jusqu'en 2026. Et dans la vie, donc dans l'assurance vie, là, en fait, il y a beaucoup de contrats qui génèrent des flux de trésorerie négatifs et qui vont arriver à leur terme au cours des prochaines années. Donc, la génération de flux de trésorerie de la partie vie va vraiment augmenter. Donc, du coup, on a un momentum positif opérationnel. On a une direction aujourd'hui qui commence à devenir de plus en plus crédible. Et donc, ce qui pourrait se passer, c'est qu'au cours des prochaines années, cette décote devienne de moins en moins compréhensible et se réduise progressivement au fur et à mesure que le plan 2026 est livré.
On parle de 2026 parce que la société a présenté un plan stratégique qui va jusque-là. Skor dans 10 ans et les réassureurs dans 10 ans, pour vous, à quoi pourrait-il ressembler dans un monde bouleversé? Vous nous parlez des activités dommages qui évidemment sont strictement concernées par le changement climatique. Est-ce que vous avez, Pierre Chang, une projection sur ce secteur dans une dizaine d'années?
En fait, à votre avis, est-ce que les risques vont augmenter au cours de la prochaine décennie? Là, ce que je viens d'entendre, la rivalité commerciale de Stéphane Pedradi, l'insécurité géopolitique, militaire, hein, l'attaque en les Russes, les Chinois. Donc, je pense que l'environnement globalement devient moins certain, plus incertain. La sécurité alimentaire, la sécurité physique, les projections dans l'avenir. Tout. Moi, je pense que l'environnement de risque augmente et c'est ce qui justifie une dynamique de prix qui est favorable pour les assureurs. Donc, je pense que c'est un métier vraiment d'avenir et ces gens-là, en fait, vont permettre de donner de la visibilité aux acteurs économiques à l'avenir. Et donc, c'est pour ça que les prix montent et c'est pour ça que c'est favorable pour Skor.
Voilà, les assureurs, les réassureurs qui protègent le business, ce que vous nous dites, un secteur à regarder de près. Merci beaucoup. Merci, Pierre Chang. On a le droit de parler d'une petite actualité corpo qui vous concerne, puisqu'on vous connaissait sous le titre de Tocqueville, et maintenant on vous connaît sous le parapluie, sous l'étiquette la financière de l'échiquier, opération, voilà, qui fait que vous êtes
depuis
toujours avec
nous.
Depuis
le 1er avril, exactement. Ouais.
Merci beaucoup Pierre et l'équipe de la financière de l'échiquier d'être avec nous au décryptage ou en tout cas à la présentation de la société française Score, cas d'investissement avec vous qui peut intéresser les investisseurs qui nous écoutent et qui nous suivent, valeurs françaises à suivre. Vous restez avec nous, nous allons parler d'un risque ou en tout cas de risque au pluriel. Les élections américaine approche. Est-ce qu'il faut préparer votre portefeuille ou vos portefeuilles en anticipation de ces élections? Scénario si Trump gagne, scénario si Biden gagne. Quels sont les secteurs et les entreprises à suivre en particulier dans les deux scénarios? C'est à suivre. On vous coach, on s'occupe de votre portefeuille.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach du vendredi, c'est Félix Rivière. Bonjour Félix.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes responsable des investissements chez Goodvest. Avec vous, on est déjà demain. On est déjà dans un demain qui fait un petit peu peur, post-élection américaine. On se demande s'il faut préparer son portefeuille en anticipation, en anticipant, en attendant. Quel est le bon verbe? Ces élections américaines. D'abord, on est dans une année, super année électorale. Il y a des élections partout. Celle des États-Unis nous intéresse particulièrement. Donnez-nous un petit peu de contexte, Félix.
Ouais, le contexte, c'est celui que vous dressez, Lorraine. C'est 2024, the super election year, hein, comme disent les anglo-saxons, la super année électorale. On a plus de 64 pays qui organisent, ou qui ont d'ailleurs déjà organisé, des élections majeures. Ça représente plus de 2 milliards de personnes qui sont attendues dans les urnes sur la planète. C'est 25% de la population mondiale, 40% du PIB mondial. Donc c'est évidemment une année centrale. Évidemment, l'élection qui cristallise toutes les attentions, c'est l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine. Voilà, c'est celle que les marchés suivront de très près.
On a gardé Pierre Chang de la chronique d'avant avec nous. Rebonjour Pierre Chang.
Rebonjour.
Vous êtes gérant au PCVM, à la financière de l'échiquier. On vous garde parce qu'on parlera de portefeuille. On avait envie de profiter aussi de votre regard et puis peut-être de vos anticipations aussi chez vous, à la financière de l'échiquier, sur cette année électorale en particulier. Qu'est-ce que vous dites à vos clients? Comment on les prépare?
Là, dans les élections qui arrive, hein. Donc il y a le choix, je pense, pour les sociétés occidentales, en tout cas, c'est est-ce qu'on veut de la mondialisation ou est-ce qu'on veut moins de mondialisation. C'est vraiment à chaque fois, c'est la grande question. Donc il y a des partis qui se positionnent clairement contre la mondialisation et d'autres pour la mondialisation. Donc je pense que c'est ça la discussion. Maintenant, nous, dans les fonds, c'est vrai qu'on sent en tout cas un appétit de la part de nos clients sur des thématiques de souveraineté, des thématiques d'investir dans les PME locales, etc. Donc ça, on sent vraiment cette demande. Et c'est vrai que nous, du coup, dans les portefeuilles, en tout cas, moi, je m'occupe de la franchise France, en tout cas, et c'est vrai qu'on le ressent et on l'applique dans les portefeuilles, donc notamment sur les PME, où là, il y a vraiment une volonté d'orienter l'épargne des nations, l'épargne domestique, de l'orienter vers le tissu économique domestique. Donc ça, on est dans moins de mondialisation et ça, on voit ça aussi. Voilà. Et donc, on a également des acteurs comme dans le luxe, par exemple. On a parlé tout à l'heure du cognac, où on sent aussi une prime de risque qui augmente. Donc clairement, Rémy Cointreau en bourse aujourd'hui évolue plutôt sur des niveaux bas. Bon, il y a plusieurs sujets, mais il y a également ce sujet du protectionnisme qui peut être vraiment très néfaste pour le secteur du luxe qui réalise environ 40% de son chiffre d'affaires en Asie. C'est majeur. Donc, ce sont vraiment des sujets majeurs.
Félix, vous nous emmenez dans le bureau ovale où beaucoup de décisions, évidemment, ont des répercussions sur l'économie mondiale. Quels sont les secteurs, pour être très, très pédagogique, qui sont les plus sujets à impact?
En fait, tous les secteurs vont être un peu sujets à impact là, mais je veux revenir effectivement sur le stress ou l'anxiété que ça peut amener ces élections américaines. Il y a une étude, j'ai vu ça hier soir, du gérant d'actifs américain Janus Anderson, qui a été menée en fin d'année dernière, fin 2023, qui montrait clairement, alors ils ont fait leur étude, ils ont sondé 1000 épargnants américains qui détiennent au moins $250,000 d'actifs investis. Ces investisseurs, ils sont quand même un petit peu inquiets, des élections qui viennent cette année. Il y a 50% d'entre eux, 49% exactement, qui s'inquiètent pour leurs finances des résultats de l'élection américaine. C'est assez loin devant, par exemple, un risque de récession. Seulement, entre guillemets, 30% d'entre eux sont inquiets du risque de récession pour l'évolution de leur portefeuille. Donc ça, c'est un contexte. Après, ce contexte d'anxiété, évidemment, il est un petit peu, parfois, irrationnel. Il faut aussi se repositionner un petit peu dans le temps. Si on regarde sur une période très longue, l'indice large américain qui est le S&P 500, entre 1937 et 2022, globalement, il augmente de 12,5% par an, en moyenne,
mais
sur la période.
Pendant les années d'élection, ça donne quoi?
Mais c'est un petit peu moins. Pendant les années d'élection, c'est seulement, avec des gros guillemets, 9,9%. Hein, c'est quand même très important. Donc on voit clairement que cette inquiétude dont on parle juste avant, elle est parfois un petit peu irrationnelle. Et en fait, cette volatilité qui s'accroît un petit peu les années d'élection, bah, c'est pas non plus une raison majeure en fait qui pousse les investisseurs à sortir des marchés.
Bon, quoi qu'il en soit, quand on est investi sur les marchés et qu'on n'est pas un trader intraday, l'idée c'est quand même de rester sur le long terme. Donc l'inquiétude n'est jamais une raison de sortir des marchés, Pierre.
Plutôt même souvent une source de, une opportunité de rentrer. Hein. Ce que je remarque aussi, c'est que donc en Europe, on va avoir les élections européennes cette année. Et donc, c'est intéressant à chaque fois de voir les centres d'intérêt principaux, les préoccupations de l'opinion à chaque fois. Et donc, ce qui est vrai, c'est que depuis la crise de Covid, ce qu'on a vu, ce qui m'a marqué, moi, mais je ne sais pas si vous notez la même chose aussi aux États-Unis, mais il y a la crainte environnementale qui a reculé dans le classement des préoccupations. On reconnaît aussi que les premières préoccupations, c'est la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Et ce qui est assez loin derrière, c'est le déficit ou le niveau de dette, qui sont des sujets qui ne sont pas du tout gagnants politiquement. Et donc, c'est vrai que là, bon, on a eu pas mal d'histoires, enfin, d'actualités riches sur le déficit français, mais aux États-Unis, on est aussi sur des niveaux d'endettement élevés, et ce n'est pas une préoccupation de l'opinion. Et donc, la question, c'est comment on va régler cette grande question de l'endettement si l'opinion s'en désintéresse. Ça aussi, ça va être un sujet qui va être intéressant à suivre au cours des prochaines élections cette année.
Bon, tâchons d'être pragmatiques. Félix, vous êtes notre coach aujourd'hui. On va faire deux scénarios. Un scénario où c'est Trump qui gagne, un scénario où c'est Biden qui gagne. Et donc, des secteurs ou des classes d'actifs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Différentes classes d'actifs, différents secteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu en fonction des deux scénarios. Pierre, on commence par Trump ou pas Biden qui gagne?
Volontiers, Trump.
Allez. Ouais. Alors racontez-nous, si Trump gagne, Félix, à quoi va ressembler, si on résume évidemment, hein, la politique de Trump V2, si je puis dire?
Oui, alors Trump V2, c'est quand même un Trump V1-like, hein, ça va ressembler. Et donc la politique qui va se dessiner vraisemblablement, c'est à la fois une politique qui sera ultra-libérale sur notamment la déréglementation, sur les économies d'impôts, et c'est assez ambivalent d'ailleurs, mais aussi ultra-protectionniste, notamment vis-à-vis des industries nationales et du consommateur américain. Hein, ça, c'est les grandes lignes quand même côté Trump. Et dans ce cadre-là, les secteurs qui devraient tirer leur épingle du jeu, bah, c'est bien sûr les secteurs qui sont en lien avec ce qu'on appelle la vieille économie, les énergies fossiles notamment. Deuxième secteur qu'on peut citer, c'est celui de la finance. Le secteur financier devrait aussi tirer son épingle du jeu dans un contexte où on sait que Trump est tout à fait capable d'avancer sur des sujets d'assouplissement en termes de régulation. Il y a peut-être un troisième secteur qu'on peut citer qui est le secteur de la défense, mais qui probablement, c'est moins franc en tout cas que sur les deux premiers exemples, parce qu'on voit quand même que les démocrates, de manière générale, et Biden sont aussi attachés au protectionnisme de ce secteur de la défense.
Pierre ?
Il y a un secteur qui pourrait souffrir, c'est les semi-conducteurs. Parce que c'est vrai que Trump a plutôt fait comprendre que Taïwan n'était pas pour lui un sujet à défendre contre vents et marées. Et donc s'il y avait une tentative du continent de prendre le contrôle de Taïwan, en tout cas pour le secteur de semi-conducteurs, ça serait un choc, puisqu'on a TSMC qui est basé à Taïwan et qui est l'un des principales fonderies mondiales. Et donc là, ça pourrait vraiment provoquer une onde de choc assez importante dans le monde des semi-conducteurs. Nous, en Europe, on a notamment ASML, qui est vraiment notre champion européen, qui vend des équipements pour les usines qui fabriquent des semi-conducteurs. Et donc, il est aussi régulièrement en tête d'affiche sur les valeurs qui pourraient être pénalisées par ce genre de mouvement.
Question importante, est-ce que l'IRA serait remis en cause, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, épargnants de ce côté-ci de l'Occident?
Ouais, ça c'est une vraie question.
De l'Atlantique, pardon.
C'est une vraie question côté États-Unis. L'IRA, c'est donc l'Inflation Reduction Act. C'est un plan massif, notamment d'investissement, qui a été lancé là sous la présidence Biden, qui vise notamment à investir près de 380 milliards de dollars dans la transition énergétique. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que Trump va couper dans ce plan? Rien n'est moins sûr pour l'instant. Cela dit, les analystes commencent à penser que ce sera probablement pas le cas, ou en tout cas dans une moindre mesure, notamment parce que ce plan, il est aussi pourvoyeur d'emplois, massivement, des emplois qui sont des emplois industriels, qui sont des emplois américains, non délocalisables, et ça, malgré tout, Trump aime.
D'accord, Pierre, sur l'IRA.
Ouais. Il y a aussi un autre secteur que je trouve très intéressant, c'est le secteur des mines. Des mines de fabrique, enfin de production de minerais en tout genre, de matières premières, où là, effectivement, il y a une vraie volonté de devenir de moins en moins dépendant de pays qui sont moins alignés avec l'Occident. Et donc là, en tout cas, en Europe, il y a notamment une réglementation qui est arrivée en Europe là, pour essayer de relancer la souveraineté sur ce genre de sujet. Et donc, c'est pour ça que nous, on vient de lancer un fonds sur les matières premières de la transition énergétique et qui pourrait également profiter de cette ambiance un peu protectionniste, de volonté d'investir dans ce secteur.
Voilà, on anticipe les élections américaines. Évidemment, on se met dans notre portefeuille d'investissement. On ne parle ni de politique tout à fait, ni d'humain. On parle strictement, au sens strict, de finances et d'impact sur nos portefeuilles. Maintenant, on va faire le deuxième scénario. Si Biden gagne, quelles seraient les grandes lignes de sa politique à lui aussi, finalement, V2, puisqu'il s'agirait d'un deuxième mandat, Félix Rivière.
Biden V2, c'est effectivement une continuité de V1 également. Et donc, la continuité de V1, c'est quoi? C'est évidemment des idées beaucoup plus progressistes hein, que côté Trump, avec comme axe majeur la durabilité, les soins de santé, la transition énergétique. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, on aurait des secteurs assez différents qui seraient probablement, qui sortiraient vainqueur entre guillemets ces prochaines années. C'est d'abord et avant tout le secteur de la transition énergétique, c'est clair. Et le deuxième grand secteur, c'est le secteur de la santé. Et effectivement, qui devrait aussi tirer son épingle du jeu si Biden fait un deuxième mandat.
Énergie renouvelable, infrastructures vertes, et les infrastructures, Dieu sait que les États-Unis en ont besoin, et des neuves, et puis secteur de la santé. Alors maintenant, à vous écouter Félix et vous Pierre, l'idée c'est que quand on gère son portefeuille, on a envie, quelque part de le décorréler de l'actualité, de le décorréler des risques que ces élections vont apporter. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qu'on fait là, c'est le maître mot qui perdure, c'est la diversification. C'est le meilleur allié quand même des investisseurs pour faire face à de la volatilité, des variations de marché un petit peu accrues, notamment en période d'élection, pourquoi pas. Donc on reste évidemment sur une diversification et on peut penser à quelques pistes quand même qui effectivement permettent de décorréler les portefeuilles par rapport à une volatilité un peu accrue. Peut-être on peut déjà penser à accentuer la pondération sur les actifs européens plutôt que américains, et notamment profiter, on en parlait tout à l'heure sur ce plateau, d'actifs européens qui sont aussi moins valorisés. Les ratios de PE sont quand même beaucoup moins importants qu'aux États-Unis. Le S&P, je crois que ça s'échange autour de 20 fois les bénéfices en ce moment. Sur le CAC, par exemple, on est plutôt autour de 14 fois les bénéfices. Donc on a des ratios de valorisation qui sont effectivement plus intéressants, en tout cas moins élevés en Europe qu'aux États-Unis. Premier axe. Deuxième axe, on peut aussi penser à repondérer un petit peu les instruments de taux et notamment les actifs obligataires, que ce soit des obligations d'ailleurs cotées ou non cotées. Les deux sont tout à fait envisageables. Traditionnellement, les obligations, c'est des actifs qui sont quand même moins exposés à la volatilité que les actions. Et nous, chez Goodvest, d'ailleurs, on a une petite préférence pour tout ce qui est investment grade, donc des actifs obligataires plutôt sécurisés, bien notés, parce qu'elles profitent d'un rendement assez important en ce moment.
Bon voilà, vous l'avez entendu, on diversifie, on pondère, on augmente la pondération des actifs européens et puis des actifs obligataires. Deux pistes, on continuera à faire ce sujet si vous le voulez bien dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et puis on aurait pu aussi parler de miser sur le non-coté. Comme ça, on est aussi sur une autre gamme d'actifs pour nous, investisseurs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre Chang d'être resté un petit peu plus longtemps et d'avoir posé aussi votre regard sur ce sujet. Merci Félix d'avoir été notre coach sur ce sujet. Oui, géopolitique, mais qui concerne directement notre vie d'investisseurs et puis d'investisseuses. Vous restez avec nous, on marque une pub et après, c'est la deuxième partie de Tout pour investir. Les experts de l'IMO se préparent pour venir parler du neuf et de l'ancien, des travaux et des usages électriques dans nos maisons et répondre à vos questions, celles que vous allez nous adresser peut-être pendant ce direct. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.